Vous écoutez France Culture. C'est le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'essentiel de ce journal sera évidemment consacré à l'actualité politique et économique en France, avec tout d'abord la confirmation donc que la réforme du prélèvement à la source entrera bel et bien en vigueur au 1er janvier prochain. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a confirmé hier soir, ce qui visiblement n'empêche pas certains de s'interroger encore sur sa faisabilité, en particulier avec les nouvelles mesures annoncées concernant les bénéficiaires de réductions et autres crédits d'impôt.
Voilà, autre titre principal de ce journal, le remaniement ministériel.
Oui, avec non seulement les ennuis fiscaux de Laura Flessel, qui probablement aurait conduit l'ex-ministre des Sports à démissionner hier, mais aussi la nomination de François de Rugy au ministère de la Transition écologique. De quoi se demander si ce remaniement ne concentrerait pas au fond tout le savoir-faire du vieux monde politique.
Invité de ce journal également, Gilles Carrez.
Député Les Républicains et membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Avec lui, nous évoquerons chacun de ces sujets, sans oublier l'examen en séance aujourd'hui du volet législatif du plan Pacte, texte phare de la deuxième année du quinquennat Macron et qui prévoit notamment des mesures relatives à l'intéressement et à la participation.
Et puis dans le reste de l'actualité et donc de votre journal Thomas Cluzel.
Nous chercherons à cerner la personnalité de Samuel Dufour, l'un des trois skinheads actuellement en procès devant la cour d'assises de Paris pour la mort du jeune militant antifasciste Clément Méric. Nous reviendrons sur ce seuil record atteint hier par le groupe Amazon, un chiffre impressionnant, 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Enfin, nous nous demanderons si le dérèglement climatique peut être à l'origine du puissant typhon qui s'abat en ce moment même sur l'archipel du Japon. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Après l'art de l'enfance avec Marie Desplechin et Claude Ponty, les invités de la grande table culture, aujourd'hui un discours de la méthode avec le neuroscientifique Stanislas Dehaene et le documentariste Frédéric Castagnède. Des pistes de réflexion seront ouvertes sur l'école du futur ou comment favoriser l'apprentissage. Ce sera à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. Il ne faut pas confondre exigence et hésitation. Voilà donc comment le Premier ministre Édouard Philippe est venu justifier hier soir à la télévision la nature des doutes qui semblaient avoir soudain saisi le chef de l'État quant à l'opportunité de mettre en place le fameux prélèvement à la source et cette vigilance de tous les instants s'agissant d'une réforme emblématique dont Emmanuel Macron avait lui-même participé à l'élaboration en tant que ministre de l'économie il y a déjà 2 ans et demi, aura in fine conduit le président à considérer que oui, au 1er janvier, l'impôt devra bel et bien être retenu directement sur les fiches de paye. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Et bonjour.
Alors maintenant que l'exécutif a pu, à la faveur de ses atermoiements, s'assurer du niveau de popularité de cette réforme auprès des contribuables, mais aussi passer le message qu'il ne faudra pas éventuellement s'étonner de quelques petits couacs techniques au démarrage, la question est à présent de savoir comment tout cela va se mettre en place, étant entendu qu'une note de Bercy vient d'être publiée annonçant un certain nombre de nouveautés.
Et pour cause, si la réforme ne consistait qu'à faire un choix entre 3 taux, en transmettre un et prendre connaissance de son revenu net d'impôt en fin de mois, ce serait relativement simple en effet. Alors ce n'est pas le cas. Des problèmes de décalage vont continuer à se poser ailleurs, autrement, en raison même de la spécificité du système fiscal français, avec une grande palette de statuts de déduction et crédit d'impôt. L'air de rien, ça concerne quand même des millions de contribuables. Alors pour ceux-là qui bénéficient de réduction d'impôt, l'application directe du prélèvement à la source leur aurait amputé une partie de leur pouvoir d'achat, ces réductions ne pouvant être calculées et remboursées qu'en septembre de chaque année, une fois remplie la déclaration d'impôt annuel. Alors afin d'en modérer l'impact, le gouvernement avait envisagé un acompte de 30% dès le 15 janvier, il l'a monté à 60%, on sera donc proche des 2/3 du crédit d'impôt total, ce qui est plus supportable pour les contribuables concernés qui vont des frais de garde d'enfants aux dons à des causes et cotisations syndicales en passant par l'investissement locatif, Pinel et autres du faux. Et à quoi s'est ajouté la prise en compte d'autres cas spécifiques, celle des employés à domicile, quelques 250 000 salariés de particuliers employeurs, ils risquaient cela de devoir acquitter un double impôt en 2020. Alors que faire? Les exonérer totalement, c'était prendre le risque de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel sur le principe de l'égalité devant l'impôt, tout simplement. Alors le gouvernement a finalement choisi une option qu'on va dire pragmatique, il va mettre en place un acompte annuel qui sera calculé sur les derniers revenus connu, on éviterait ainsi un double prélèvement, ce qui s'appelle ajuster la mécanique fiscale.
Jean-Marc Chardon, merci. Alors le problème désormais avec ces nouvelles dispositions que vous évoquiez, c'est qu'elles n'ont pas pu être suffisamment anticipées par l'administration fiscale et c'est ainsi que se pose à nouveau le problème de savoir si tout le monde sera bien prêt à temps. Or selon Vincent Drezès, secrétaire national du syndicat Solidaire, rien n'est moins sûr. Il était l'invité ce matin de nos confrères de France Info.
Ce qui va se passer dès aujourd'hui, c'est que les contribuables concernés qui vont regarder leur avis d'imposition, qui vont faire leurs calculs, vont venir voir nos collègues et dire « bon, mais comment ça va se passer finalement pour moi ?» parce que peut-être que les indications que j'ai ne sont pas les bonnes. Nos collègues n'ont pas de texte parce que ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre n'est pas dans la loi de finances 2018. Et donc, il va falloir sans doute, malheureusement, leur dire « on va attendre un petit peu de savoir si on a des instructions » parce que nous, on ne donne pas des renseignements en l'air. Mmh. Ça va ajouter à la confusion, mais ce dossier est une accumulation de frustration pour les agents des finances publiques parce que la question des crédits d'impôt, des réductions d'impôts, notamment de ce qu'on appelait les crédits récurrents, c'est-à-dire ceux qui se prolongent d'une année sur l'autre. Nous l'avions identifié dans les premières réunions à Bercy en 2015.
Donc ça n'a pas été anticipé, là ça arrive voilà, un peu tard.
L'arbitrage politique a été différent et là maintenant on se retrouve avec des nouveautés qu'il va falloir gérer, j'allais dire en live, là sans texte, sans rien. Et c'est pas bon pour le service public ni pour le contribuable.
Voilà, Vincent Drezet, secrétaire national du syndicat Solidaire. Et puis s'agissant donc de ce prélèvement à la source, je vous rappelle que nous serons tout à l'heure avec Gilles Carrez, député Les Républicains et membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Comment bien déclarer ses impôts? Justement, hier, au moment d'annoncer son départ, surprise du gouvernement, la ministre des Sports, Laura Flessel, avait invoqué des raisons personnelles et l'envie de se tourner vers l'humain, la solidarité et la coopération internationale. En réalité, selon des révélations du Canard enchaîné de Mediapart, il semblerait que ce soit davantage ses ennuis avec l'administration fiscale qui soit à l'origine de son départ. Un dossier compromettant serait actuellement entre les mains de Bercy. Les explications de Charlotte Piret.
C'est précisément la société de droit à l'image Flessel & Co. qui est dans le viseur de la commission des infractions fiscales, cette autorité indépendante chargée d'examiner les dossiers litigieux en vue ensuite d'une éventuelle plainte au pénal. Laura Flessel n'en est pas encore là, aucune plainte de Bercy n'ayant été enregistrée à ce stade, mais elle n'en est peut-être pas si loin car ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros qui auraient été dissimulés au fisc par l'entreprise familiale, une société détenue à plus de 87% par la désormais ancienne ministre. Le reste des parts revenait à son mari, également gérant de cette société, en cours de dissolution depuis le 30 septembre 2017. Ces manquements dans les déclarations fiscales ont été découverts dans le cadre des vérifications automatiques de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui examine déclarations du patrimoine, des revenus d'activité et éventuels conflits d'intérêts de chaque ministre au moment de sa nomination. Si les éléments recueillis en mai 2017 sur Laura Flessel n'étaient sans doute pas suffisants pour empêcher son entrée au gouvernement à l'époque, la situation est désormais différente.
Alors la démission hier de Laura Flessel, une semaine après celle de Nicolas Hulot, a nécessairement conduit le gouvernement à procéder hier à un léger remaniement et non des moindres puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que de remplacer les deux ministres les plus populaires du gouvernement. S'agissant tout d'abord du départ surprise à la tête du ministère des Sports, l'ex-championne d'escrime a été remplacée par une ex-championne de natation, Roxana Maracineanu, laquelle s'était déjà vue confier par le Premier ministre une mission dans le cadre du renforcement du plan de lutte contre les noyades. Quant au ministère de la Transition écologique, c'est donc François de Rugy, l'ancien président de l'Assemblée, qui au bout d'un an a préféré quitter le perchoir pour prendre la place laissée par Nicolas Hulot et ainsi peut-être lui-même laisser son fauteuil au patron du groupe majoritaire Richard Ferrand. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
François de Rugy, transfuge d'Europe Écologie Les Verts, rallié très tôt à Emmanuel Macron, est un homme au parcours, disons, tortueux. C'est aussi, sinon un homme d'appareil, à tout le moins un professionnel de la politique. Et de ce point de vue, eh bien, on se dit que le nouveau monde, si souvent vanté par le chef de l'État, ressemble étrangement à l'ancien, du moins en termes d'arrangement politique.
Oui, après un été difficile, cette rentrée politique, elle sonne comme un atterrissage dans le réel pour Emmanuel Macron. Fini l'ouverture à la société civile, que ce soit Nicolas Hulot ou Laura Flessel, ces deux personnalités populaires ont fragilisé le chef de l'État. Pour l'opposition, c'est la fin du mirage Macron, la fin de ces personnalités symboles, explique le député LR Julien Aubert. La politique, ajoute-t-il, ne peut pas se limiter à nommer des experts, c'est aussi avoir un cap et donner une impulsion. D'où ce repli du chef de l'État sur des profils plus politiques. François de Rugy, vous l'avez dit, Thomas, ancien candidat à la primaire de la gauche, ambitieux et converti au macronisme, un profil loyal selon l'Élysée. L'Élysée qui fait aussi d'une pierre deux coups car cette nomination libère une place au perchoir de l'Assemblée nationale. Pour Emmanuel Macron, Richard Ferrand serait le candidat idéal, c'est ce que rapporte le Canard enchaîné. Alors l'élection du nouveau président de l'Assemblée, elle aura lieu mercredi prochain. Lundi, le groupe majoritaire majoritaire désignera son candidat. Et si effectivement Richard Ferrand est confirmé, il y aura là aussi retour à un profil politique plus traditionnel. Emmanuel Macron disposera aussi d'un de ses meilleurs lieutenants à la présidence du Palais Bourbon. Et ce jeu de chaises musicales, il aurait même été prévu d'avance avec un accord entre Richard Ferrand et François de Rugy, comme l'explique le Lab d'Europe 1. Ce matin, Emmanuel Macron a repris la main. Il s'est exprimé à l'ouverture du Conseil des ministres. Fort de ses deux nouveaux membres, il a encouragé son gouvernement à tenir, malgré, je cite, énormément de défis.
Anne Fauquemberg, merci. Alors c'est peu de dire que depuis cette rentrée, le quinquennat Macron est entré en zone de turbulence. Pour autant, le cap reste, lui, inchangé. Dans une semaine s'ouvrira la session extraordinaire censée mener vers un débat budgétaire délicat à l'automne. Et puis aujourd'hui même, les députés entament leurs travaux en commission sur le projet de loi Pacte, un texte phare de cette deuxième année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Avant de rentrer plus en détail dans ce plan, disons pour simplifier, qu'il vise à renforcer la compétitivité des entreprises avec pour ambition à terme de favoriser les créations d'emplois.
Oui, c'est en tout cas l'objectif donné à ce texte long, 73 articles sans compter les plus de 2000 amendements déjà déposés. Un texte surtout technique, touffu et disparate. S'il passe par une commission spéciale à l'Assemblée, c'est d'ailleurs parce qu'il touche aussi bien au droit du travail qu'au droit commercial ou encore au droit des sociétés. L'exécutif, lui, en défend la cohérence, articulée autour de l'entreprise et de toutes ses composantes. Objectif, libérer les entreprises à toutes les étapes, création, croissance, rebond, transmission, via un agrégat de mesures dites de simplification. Les organisations patronales ont d'ailleurs bien reçu ce texte, se félicitant d'avancer sans nouvelles obligations.
Et ici, il est sans doute difficile, Catherine, d'identifier une seule mesure phare. Peut-être, d'ores et déjà, peut-on anticiper quels seront les sujets qui pourraient émerger ou faire débat?
Oui, alors l'un des principaux axes de communication de Bruno Le Maire, c'est la meilleure association des salariés aux résultats de l'entreprise via l'intéressement et la participation. Pour développer ces dispositifs, le texte prévoit la fin du forfait social, c'est-à-dire les 20% de prélèvements sociaux sur les versements, une mesure censée être incitative pour les patrons, même si rien ne sera obligatoire. Surtout, cette suppression des cotisations ne fait pas l'unanimité, pas plus que la réforme des seuils sociaux. Le texte prévoit de les relever, c'est-à-dire de changer le nombre d'employés à partir duquel une entreprise a des obligations fiscales et légales. C'était une demande ancienne et récurrente des organisations patronales. En pratique, un certain nombre d'entreprises se verront exonérées d'une partie de leurs cotisations sociales. Alors, côté recettes, l'État compte sur les privatisations, puisque le texte rend possible des cessions d'actifs dans trois entreprises où l'État est actionnaire majoritaire, Aéroports de Paris, Engie et la Française des Jeux. Enfin, les débats devraient porter sur la redéfinition du rôle de l'entreprise et la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux de son activité. En bref, un texte vaste pour Bruno Le Maire. Il estime qu'il devrait permettre davantage de croissance et la définition d'un nouveau modèle économique français.
Merci Catherine Pétillon.
Midi 43 sur France Culture, la suite de votre journal. Thomas
Cluzel. Et invité aujourd'hui avec nous en studio, Gilles Carrez, député Les Républicains, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et avec moi pour vous interroger en studio, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question monsieur Carrez, cette loi Pacte dont nous venons de parler, et vous êtes vous-même membre de la commission Pacte, est-elle selon vous de nature à relancer la croissance?
Alors comme ça vient d'être dit, c'est un texte touffu, disparate, mais il y a deux séries de mesures qui me paraissent importantes. Il y en a une que je juge très positive, c'est la suppression du forfait social de 20% sur l'intéressement et la participation pour les PME, les entreprises de moins de 250 salariés. Ce forfait social, il est apparu progressivement depuis une dizaine d'années et il est très pénalisant pour l'association des salariés aux résultats de l'entreprise. Et donc c'est une très bonne mesure que de le supprimer. En revanche, il y a une disposition qui m'inquiète beaucoup, c'est la privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. La privatisation d'Aéroports de Paris risque de nous conduire au même problème qu'on a connu avec la privatisation des autoroutes il y a un peu plus de 10 ans. À l'époque, je m'étais opposé à la décision du Premier ministre de l'époque, qui était Dominique de Villepin, dont au passage Bruno Le Maire était à l'époque le collaborateur. Et la suite a montré hélas, à quel point j'avais raison, puisqu'on a privatisé les autoroutes sans se préoccuper suffisamment du contrôle des péages, d'un certain nombre de régulations qui n'ont pas été mises en place. Et sur Aéroport de Paris, il y a des enjeux très importants de services publics, il y a des redevances, il y a un immobilier avec des centaines d'hectares autour d'Orly qui ne demande qu'à être aménagé. Ces questions ne sont pas traitées et je ne voudrais pas qu'on refasse avec la privatisation d'Aéroports de Paris les mêmes erreurs que celles qu'on a commises avec la privatisation des autoroutes. Quant à la Française des Jeux, je trouve qu'il est très regrettable de privatiser un secteur qui est aussi sensible, vulnérable du point de vue des addictions, qui par ailleurs, ne l'oublions pas, est une source de revenus fiscaux très importante pour l'État. Et je ne sais pas comment on conciliera le maintien de ces revenus pour l'État avec une privatisation. Donc tout ça me paraît complètement improvisé. J'ai regardé attentivement l'étude d'impact et le texte et je n'ai aucune réponse sur ces questions essentielles.
Gilles Carrez, une question de Stéphane Robert.
D'ici quelques semaines, trois semaines environ, on va commencer à discuter du budget de l'année prochaine, 2019. La croissance économique donne des signes de fatigue. Les prévisions sont revues à la baisse. Est-ce que ça vous inquiète ?
Ça m'inquiète parce que j'avais mis en garde il y a exactement un an le gouvernement sur le projet de budget 2018, en disant en augmentant de façon massive la CSG, 22,5 milliards, en augmentant de façon massive les taxes sur les carburants, vous, et sur le tabac accessoirement, vous allez créer un problème de pouvoir d'achat. Pendant tout le premier semestre, il va y avoir une ponction de près de 10 milliards d'euros sur les ménages. Alors à l'époque, on m'avait dit, mais non, c'est pas 10 milliards, c'est 5 milliards, parce qu'on va supprimer en partie l'ISF et mettre en place le PFU. Mais j'avais répondu, il y a 37 millions de foyers fiscaux, l'ISF et le prélèvement forfaitaire unique s'est concentré sur moins de 100 000. Et donc, il s'est passé exactement ce qui devait se passer, c'est-à-dire que cette ponction, avec surtout la décision, qui était une mauvaise décision, de faire en deux temps la compensation pour les actifs sur les baisses de cotisations salariales, cette ponction de 10 milliards d'euros sur 37 millions de ménages au premier semestre a étouffé la consommation et donc a fait caler la croissance. Et quand on se compare à l'Allemagne, vraiment, nos choix fiscaux de 2018 sont mauvais. Or là, on risque d'avoir exactement la même chose avec la non-indexation, je pense notamment à l'acharnement sur les retraités des retraites. Et donc, il faut que le gouvernement comprenne que la notion de pouvoir d'achat, elle est essentielle. C'est elle qui fait tourner la consommation. Et la consommation, c'est le facteur principal pour la croissance. Donc, je demande dès à présent, il ne faut pas commettre sur le budget 2019 les mêmes erreurs qui ont été commises sur le budget 2018.
Le corollaire qui est ces mesures en faveur des entreprises, avec notamment la baisse des cotisations salariales, ça vous paraît pas de nature à compenser ces mesures qui sont décidées ?
Le gouvernement espérait qu'on se refasse une santé, si je puis dire, avec le deuxième train de baisse de cotisations salariales et la première tranche de baisse de taxes d'habitation à la fin de l'année. Mais c'est là où le président Macron, semble-t-il, a pris peur ces dernières semaines. Parce que supposons, ces mesures vont se faire, elles vont dans la bonne direction. Mais si dès le mois de janvier, beaucoup de ménages, des millions de foyers se rendent compte qu'avec le prélèvement à la source, il y a moins en bas de la feuille de paye ou moins en bas de la feuille de retraite, psychologiquement, l'effet peut être vraiment très mauvais. Et l'effort fait en fin d'année sur le pouvoir d'achat se trouvait pour... La psychologie, ça compte énormément. Donc le président Macron a pris peur au dernier moment. Bon, finalement, vous savez, hein, quand le vin est tiré, même il faut, s'il est mauvais, il faut le boire. Et c'est ce qu'ils font. Ils vont mettre en place au prélèvement à la source. Moi, c'est une mesure contre laquelle je me bats depuis 3 ans, depuis l'origine. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Elle figurait dans le programme de François Hollande. C'était l'engagement 14 de mémoire au présidentiel en 2012. Parce que l'idée à l'époque, c'était de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG. Pour pouvoir rendre la CSG progressive. Et ça, c'était l'étranglement fiscal des classes moyennes. Finalement, ils ont fait le prélèvement à la source. Bon, comme ils ont été battus en 2017, ils ne peuvent pas faire la deuxième étape. Je n'ai pas compris que cette fusion, me semble-t-il, n'étant plus à l'ordre du jour, on maintienne le prélèvement à la source. Alors qu'on a un impôt, et ça c'est bien expliqué, notamment par M. Drezé, qu'on entendait ce matin, qui est complexe en France. Contrairement à tous les autres impôts sur le revenu, d'abord, il est non seulement conjugalisé, mais familialisé. D'où les problèmes de taux, de confidentialité. Et puis, c'est un impôt qui comporte énormément de niches fiscales. Et moi, je me souviens, la première réunion qu'on a eue à la commission des finances, quand on a reçu, c'était il y a bientôt 3 ans, l'équipe de la Direction générale des finances publiques, j'aurais posé une seule question. Comment vous allez traiter les niches fiscales? Ils m'ont dit à l'époque, pas de problème, pas de souci, ça fonctionnera comme avant. Mais non, ça fonctionnera pas comme avant. Alors le Premier ministre a annoncé hier soir quelques mesures qui vont dans le bon sens, sauf qu'elles sont pas dans la loi. Donc, les services fiscaux, je serai fonctionnaire des impôts à mon bureau ce matin, et puis un contribuable m'interroge, je sais pas trop quoi lui répondre, c'est pas dans la loi. Donc, comment on va s'y prendre?
Est-ce qu'on peut être sûr, comme le dit Édouard Philippe, que tout va bien se passer au 1er janvier?
J'espère que ça va bien se passer. Mais tout en espérant que ça va bien se passer, je pense que c'est une réforme qui est inutile, et en tout cas, elle a un énorme inconvénient. Un énorme inconvénient. C'est qu'elle met dans la boucle l'employeur. Or, on avait jusqu'à présent un impôt qui fonctionnait de façon bilatérale entre le contribuable et les services fiscaux. Et avec en France des services fiscaux de qualité et un secret fiscal qui est mieux préservé d'ailleurs au demeurant que par exemple le secret de l'instruction. Et donc ça fonctionnait bien. Et là, on met un tiers dans la boucle les employeurs qui n'en voulaient pas au demeurant. Donc je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas généralisé la mensualisation? Et ça rejoint un problème dans notre beau pays, sur tous les secteurs publics. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il y a un côté un peu désespérant.
Et on va terminer là-dessus, Gilles Carrez. Merci d'avoir été avec nous en studio aujourd'hui.
Merci.
Êtes, je rappelle, membre de la commission des finances de l'Assemblée. Et merci à Stéphane Robert du service politique de la rédaction. Ils sont trois ex-skinheads à comparaître depuis hier devant la cour d'assises de Paris pour répondre de la mort il y a 5 ans du jeune militant antifasciste Clément Méric. Parmi eux, Samuel Dufour, boulanger, 25 ans, c'est lui qui hier était introuvable, injoignable lors de la première audience, au point que la présidente avait dû suspendre la séance jusqu'en début d'après-midi. Ce matin, il s'est cette fois-ci présenté à l'heure devant les jurés, lesquels, Florence Turme, ont ainsi pu commencer à tenter de cerner sa personnalité.
Il se décrit comme un enfant assez turbulent, qui n'aimait pas beaucoup l'école, à qui l'on avait conseillé de consulter un orthophoniste. Aujourd'hui, il avale un peu les mots, débit de paroles rapides et explications sommaires. Il a rejoint ceux qu'il appelle les gens du local, le mouvement ultranationaliste Troisième Voie, pour l'ambiance, boire et s'amuser. Lui aussi collectionne les tatouages qu'il n'a pas les moyens d'enlever, comme l'a fait son co-accusé Esteban Morillo, parce que, dit-il, ça coûte trop cher. Collection hétéroclite entre les personnages d'animation de Tim Burton, un cochon ailé, une croix celtique et la mention « sang et honneur ». Un temps d'arrêt, une question « oui, je savais que c'était rattaché à un parti, mais non, j'étais pas un nazi ». Et puis le dernier en date, un « N » sur le doigt, « N » pour Napoléon, dont il a lu une biographie en prison et qui est devenu son personnage historique préféré. Et Hitler, interroge la présidente, non, Hitler c'était juste par provocation, j'étais un peu con, poursuit-il, et c'était l'ambiance générale. En fait, vous êtes un mouton, lance son avocat. Antoine V dessine à son tour le portrait de son client comme une personnalité limitée. Debout à la barre, Samuel Dufour encaisse, sans émotion apparente, hoche la tête au qualificatif buté. C'est difficile de comprendre ce que vous comprenez vraiment de tout ça, reprend l'avocat. Juste avant, la présidente lui avait demandé comment il voyait les choses aujourd'hui. Comme une injustice, répond Samuel Dufour sur le même ton. Je suis allé voir la police et on m'a mis en prison. En fait, je ne vois plus rien, poursuit l'accusé. Tout ça, ça ne m'intéresse plus. Aujourd'hui, je ne fais plus que mon travail et de la musculation.
Merci Florence Turme à la cour d'assises de Paris. C'est une somme tellement impressionnante qu'on a même du mal à se la représenter. 1000 milliards de dollars. Hier, le géant de l'internet Amazon a dépassé les 1000 milliards de dollars de capitalisation en bourse, soit le poids cumulé des 10 premières entreprises françaises. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
La firme Apple, elle, avait été la première en réalité à franchir ce seuil, c'était il y a à peine un mois.
Oui, mais il n'aura fallu que 21 ans à Amazon pour dépasser les 1000 milliards en bourse, alors qu'Apple avait mis plus de 38 années pour y arriver. Qui aurait parié que le petit libraire en ligne dont l'action valait 1,50$ en 1997 deviendrait en si peu de temps la deuxième capitalisation boursière mondiale et l'employeur d'un demi-million de de personnes, 575 000 plus précisément. Aujourd'hui, une action Amazon coûte autour de 2 050 $. Alors Amazon bénéficie d'un climat général d'euphorie à la bourse de New York où le cours de toutes les entreprises atteint des sommets, mais elle apparaît aussi aujourd'hui comme l'une des entreprises les plus rentables, diversifiées et novatrices. Rentable, elle l'est depuis fin 2001 et de plus en plus. Cet été, Amazon a réalisé un profit trimestriel, de 2 milliards de dollars, ce qui est son record absolu. Diversifiée, elle l'est de plus en plus également. Du e-commerce de livres, Amazon est passé au e-commerce tout court, y compris pour la vidéo en ligne. Maintenant, Amazon a aussi des magasins physiques. C'est l'un des pionniers sur le créneau des assistants vocaux intelligents et surtout, c'est le leader de l'informatique dématérialisée, ce qu'on nomme les clouds, loin devant Microsoft et Google. Enfin, novatrice, disruptrice, diraient certains. Bien sûr qu'Amazon excelle en cela, au point que les entreprises tremblent quand Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, s'intéresse à leur domaine. Publicité, pharmacie, banque et même crédit immobilier et protection sociale, aucun secteur n'est épargné. Et cela concerne aussi les médias, dont les radios, qui de plus en plus se disent que pour être écoutés demain, il faut passer des accords avec Amazon. Radio France a d'ailleurs passé un de ces accords en juin dernier. On n'a donc pas fini de parler d'Amazon et pas seulement pour sa valorisation boursière.
Merci Marie Viennot. Un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Nuageux sur la majeure partie du pays, les températures comprises entre 18 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Prochain rendez-vous avec la rédaction à 18h et Aurélie Kiefer.